Articulé.
Chantal, je veux bien vous donner la réplique, mais bon...
Taisez-vous, arrogant, écoutez-moi.
Bah oui, mais...
Chaque nain, découvrez le plus grand choix de pergola pour un confort maximal. Pergola bioclimatique, toises ouvrant aux lames orientales. Et voilà.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
14h sur Inter. Les dernières informations, Laetitia Gaillet.
Le nouveau Premier ministre de l'Écosse est un vétéran de la politique. John Swinney devrait succéder à Hamza Yousaf qui a démissionné la semaine dernière. Il a pris la tête aujourd'hui du parti indépendantiste écossais SNP. Il était d'ailleurs le seul candidat. L'ordre d'évacuation de Rafah par Israël est inacceptable. Les mots aujourd'hui de Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Des mots accompagnés par ceux de Paris. Le ministère des Affaires étrangères rappelle aujourd'hui son opposition à une offensive israélienne sur la ville du sud de la bande de Gaza. Israël a annoncé ce matin avoir évacué 100 000 personnes à Rafah. Pour Paris, le déplacement forcé d'une population civile constitue un crime de guerre au sens du droit international. Quant aux négociations entre Israël et le Hamas sur une éventuelle trêve, eh bien elles sont au point mort. Une nouvelle réunion des médiateurs doit avoir lieu aujourd'hui au Qatar. Et maintenant, le Festival de Cannes, un collectif de travailleurs du cinéma appelle aujourd'hui les salariés du festival à des sections parallèles à la grève. Dès l'ouverture mardi prochain, mardi 14 mai, ce sont en fait des métiers comme les projectionnistes, des programmateurs, des attachés de presse, des chargés d'accueil, de billetterie qui ont voté la grève. Ils dénoncent la précarité de leur métier. Ils sont employés en fait par divers festivals. Cet appel ne remet toutefois pas en cause l'ouverture du Festival de Cannes. Il ne s'agit pas de nuire aux films qui seront présentés, dit l'une des porte-paroles du collectif sous les écrans La Dèche, mais de perturber le rendez-vous. Pas de réaction pour l'instant du côté des organisateurs du plus grand événement de cinéma du 7e art. Donc. Une bénévole des Restos du Cœur demande aujourd'hui sa réintégration. Cette femme de 60 ans, bénévole depuis 1990, dit avoir été poussée à la démission par l'association. Cela fait suite à ses propos sur TF1 en marge d'un meeting du Rassemblement National le 1er mai à Perpignan. Propos qui ont été relayés par les réseaux sociaux. Elle disait être au RSA et avoir du mal à payer ses factures. Son avocat dit qu'elle n'a commis aucune faute, qu'elle n'a pas associé non plus l'image des restos aux positions du RN et qu'elle désire poursuivre son activité. Les restos n'ont pas réagi aujourd'hui, mais ce week-end, l'association a assuré au Figaro que la bénévole en question avait décidé de démissionner car elle n'appréciait pas les remarques qui lui avaient été faites. Point final. Un tableau du Caravage va être exposé au musée du Prado à Madrid, celui-là même qui avait failli être vendu aux enchères 1500 euros en 2021 avant d'être attribué in extremis au peintre. Pour le musée, cette peinture réalisée au début du XVIIe siècle a une valeur extraordinaire de par son histoire. Son apparition représente l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'art. Le tableau a depuis été restauré grâce à la générosité de son nouveau propriétaire, propriétaire dont on ne connaît pas le nom ni le montant qu'il a déboursé pour acheter la toile. 14h03 sur Inter.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Ce mardi,
je m'appelle Zao.
Faites toujours beau au-dessus des nuages.
Zao de Sagazan, la voix de la nouvelle génération.
Je suis et sûrement pas l'inverse.
Accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Dylan Corley.
Dis-moi.
Concert unique en direct et en public sur France Inter ce mardi à partir de 20h.
C'est la Terre au carré sur France Inter et c'est avec Camille Cronier, Mathieu Vidard. Bonjour à tous les deux.
Eh ben bonjour, bonjour Laetitia. Laetitia, à tout à l'heure.
Bonjour, je suis Cyrielle. Je viens de lire avec stupéfaction que France Inter prévoirait de supprimer cette émission à la rentrée. Est-ce que vous pourriez confirmer ou infirmer cette information ? Si c'est le cas, ce serait extrêmement grave. Votre émission est rare, précieuse, elle permet de rester actif autant intellectuellement que dans le cœur. On est nombreuses et nombreux derrière vous à vous écouter et à vous soutenir. Alors merci énormément du travail précieux que vous fournissez.
Bonjour la Terre au carré, bonjour à tout le monde. C'est Nicolas de Le Pouget dans l'Hérault. Je viens d'apprendre que la Terre au carré s'arrêtera la rentrée prochaine sous cette forme-là pour laisser une place à une émission plus narrative, toujours présentée par notre cher Mathieu Vidard que l'on adore. Mais j'apprends dans cette même information que Camille Cronier ne ferait plus partie de l'émission. Je trouve ça profondément scandaleux. Alors France Inter, s'il vous plaît, ne modifiez pas les chroniqueurs ni les émissions, surtout quand ce sont des émissions de qualité. Bonne journée.
Bonjour, c'est Jean-Michel de Lyon. Je viens de lire un article sur le fait que France Inter s'apprêtait à changer la Terre au carré, et en particulier à dire au revoir à Camille. Eh bien, je veux juste vous dire que je vous aime beaucoup et je suis très triste de la disparition de cet espace de liberté d'expression. Camille, j'adorais écouter tes chroniques tous les jours. Tu as parlé de beaucoup de sujets, interrogé beaucoup de personnes dont certains médias que je ne citerai pas, moins indépendants, je dirais, ne parlaient jamais. Eh bien, bon courage pour la suite. De toute façon, la crise climatique ne va pas s'arrêter. Les points de bascule sont bientôt là. Le fascisme monte. Donc, on va pas laisser passer pour nos enfants, pour tout le monde. Allez, bisous.
Bonjour, c'est Dominique en Bretagne. Eh bien, cher Camille, cher Mathieu, j'ai su qu'on vous obligeait à modifier l'émission l'année prochaine. Alors, suppression de la chronique de Camille, suppression des appels des auditeurs, c'est bien ça? Et vous êtes pourtant de ceux qui permettent à la démocratie de respirer. Voilà, alors force à vous et on vous aime longue vie.
Oui, bonjour, je m'appelle Martine et j'habite à La Seube dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà, j'appelle parce que je suis complètement choquée, scandalisée de l'arrêt de la chronique, des chroniques de Camille Crognier. J'adore sa vivacité, sa pertinence et je me demande si lorsque la température monte, il faut casser le thermomètre. À bientôt, au revoir.
Salut à Tarot Carré, c'est Suzanne de Angers. Ben, je viens d'apprendre l'arrêt de votre émission et je suis tout simplement abasourdie. Au moment même où les médias ont le devoir de plus et de mieux parler d'écologie, on va supprimer une émission phare sur le sujet du service public. Allez, bisous à toute l'équipe, tenez bon et merci, merci, merci de nous informer comme vous le faites. C'est vraiment d'utilité publique.
Et merci, merci beaucoup les amis pour vos messages qui nous ont beaucoup touchés, que nous avons reçus très nombreux depuis vendredi. Nous devions vous répondre rapidement pour vous informer de ce qui se passe et préciser les choses. À l'heure où je vous parle, il a été acté que la Terre au carré sous sa forme actuelle, c'est-à-dire avec la chronique de Camille, les reportages d'Adèle Verzo et de Guy Vanctil et Le Répondeur, disparaîtrait à la rentrée. Ça n'est pas un choix de notre part. En revanche, il est vrai qu'après 5 saisons, nous avions envie de faire évoluer l'émission en imaginant une nouvelle formule, toujours évidemment autour de la science et de l'écologie, mais avec une structure et une narration différente et dans laquelle vous auriez retrouvé tous les ingrédients qui ont construit l'identité de la Terre au carré. Ça, on ne nous a pas obligés à y réfléchir. Cette proposition, en tous les cas, n'a pas été retenue pour le moment, car nous n'avons pas parlé de vos luttes sur le terrain depuis 5 ans, pour nous arrêter au premier obstacle venu. Votre énergie nous a beaucoup inspiré, le soutien puissant et l'attachement à la Terre que vous nous avez témoigné depuis 3 jours nous ont donné vraiment envie, plus que jamais, de défendre cette émission pour qu'elle conserve sa colonne vertébrale, sa force, sa vitalité et surtout son engagement au cœur de la crise écologique que nous traversons. Les choses doivent donc rester ouverte dans le dialogue et les échanges fructueux pour imaginer une nouvelle Terre au carré dans laquelle chacun pourra se retrouver, d'abord vous, chers auditorices, mais aussi la direction de France Inter et l'équipe qui fabrique tous les jours ce programme. Je ne doute pas un instant que nous y parviendrons. On garde le cap, on vous tient au courant et on vous aime. Faut-il déplacer des villes, des villages, des ports, des stations balnéaires ou des industries situées en bord de mer et qui seront les premières à devoir faire face à la montée des eaux? Voilà une question concrète que de nombreux territoires doivent déjà se poser et qui sont au cœur de la réflexion sur l'adaptation. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'adapter au changement climatique dans un monde qui se réchauffe? Entre la montée des eaux, la hausse des températures, les incendies, les événements extrêmes, comment les territoires peuvent-ils rester habitables dans les prochaines décennies? En février 2022, le GIEC publiait un rapport consacré à l'adaptation, dans lequel il évoquait aussi la maladaptation pour montrer la complexité et les limites de certaines solutions pourtant envisagées. Avec nos invités, on va voir comment et quels sont les impacts des changements en cours, comment on réfléchit à cette question de l'adaptation au cœur de la bataille pour le climat et qu'est-ce que cela signifie concrètement. Pour en parler, la géographe Magali Regezazit et le chercheur Gonéry Le Cozenet. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et bienvenue Magali Reguet-Zazid, vous êtes ancienne membre du Haut Conseil pour le Climat. Vous travaillez sur les questions de vulnérabilité, de résilience et de gouvernance face aux risques naturels. Gonéry Le Cozanet, vous êtes chercheur au BRGM, c'est le Bureau de Recherche Géologique et Minière. Vous travaillez sur les risques côtiers et vous êtes également co-auteur du volume 2 du 6e rapport du GIEC qui traitait donc des impacts de l'adaptation et de la vulnérabilité. On va se retrouver dans un instant pour en parler. Et si vous qui nous écoutez, vous êtes déjà concerné par ces questions d'adaptation, nous attendons vos messages, vos témoignages dès maintenant sur la page de l'émission et sur nos réseaux sociaux. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Et comme c'est chaud en ce moment, je vous parle température humide, ce moment où c'est pas le thermomètre qui casse, mais nos corps.
Voilà pour le sommaire de l'émission réalisée par Valérie Ayestara et préparée par Lucie Sarfati avec Guillaume Roux à la technique.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
L'humanité vit-elle sous la menace d'une submersion? Le dernier rapport du GIEC est formel. Les activités humaines ont accéléré le rythme de la montée des eaux, un phénomène nourri par la fonte des glaciers et des calottes polaires. Et ce processus très lent s'accélère. Au cours du XXe siècle, l'océan s'élevait en moyenne d'1,2 mm par an. Au cours des 30 dernières années, nous sommes passés à 3,5 mm chaque année, avec des conséquences immédiates sur les populations côtières.
Extrait du média Le Blob en septembre 2022. Magali Reguet-Zazid et le chercheur Gonéry Le Cozanet sont nos invités donc pour parler adaptation cet après-midi dans l'émission. On va être un peu scolaire pour commencer, peut-être Magali Reguet-Zazid, pour essayer de donner une définition à l'adaptation. Ça veut dire quoi, au fond, dans le contexte du changement climatique?
Alors, l'adaptation, c'est une des deux réponses qu'on peut avoir face au changement climatique. En gros, quand vous avez un risque, vous avez d'un côté un danger. Ce danger, c'est le réchauffement de la planète. Et ce réchauffement, on va pouvoir agir dessus en réduisant, limitant nos émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on appelle l'atténuation. Ouais. C'est l'atteinte de la neutralité carbone. Sauf que comme le réchauffement climatique est déjà là et qu'il va continuer à se produire jusqu'au moment où on aura atteint ce net zéro émission de CO2, eh bien, il faut mettre en place d'autres réponses pour réduire et notre exposition et notre vulnérabilité, c'est-à-dire notre fragilité par rapport aux impacts du changement climatique. Et ce qui est important dans cette adaptation, c'est qu'en français, l'adaptation, c'est changer pour faire face à un changement. Donc, quand on parle d'adaptation, c'est l'ensemble des réponses qui peuvent être simplement des ajustements, je réagis à, qui peuvent être ce qu'on appelle des réponses palliatives. J'ai une catastrophe, je répare, je restaure. Mais si on s'en tient là, ça ne va pas marcher. Et donc aujourd'hui, l'adaptation telle qu'on la conçoit, ce sont des transformations à la fois progressives, pas à pas, mais aussi de structures profondes. On va parler de transformation radicale, ça n'a pas du tout une connotation politique, c'est juste qu'on va s'attaquer aux racines des problèmes pour essayer justement de limiter au maximum les conséquences de ce climat, non seulement qui a déjà changé, qui continue à changer, mais qui va encore continuer à changer pendant les années, voire les décennies prochaines.
D'où la difficulté d'engager des adaptations, finalement. Hein. Et c'est aussi un système complexe qui est en marche, là, pour le
Exactement,
coup.
Et puis ça veut dire qui s'adapte à quoi? Ouais. Est-ce que ce sont les individus, les entreprises, les collectifs, les territoires? Est-ce qu'on s'adapte à simplement des chocs climatiques ou à tous les impacts, des chocs sanitaires, des chocs économiques? Et tout ça dans un contexte de finances publiques dont on connaît les difficultés, mais aussi un contexte de géopolitique mondiale qui est compliqué. Et puis, il ne faut pas oublier que la planète, ce n'est pas que le climat. Il y a aussi des problèmes liés à la biodiversité. J'espère qu'on va en parler
Absolument.
Parce que c'est le point central. Mais on a aussi des problèmes de pression sur les matériaux. On a des problèmes de pression sur simplement la pollution. Et donc, tout ça fait qu'on va devoir ajuster en permanence nos réponses et qu'en plus, on n'est pas tout seul à jouer.
Gonéry Le Cozanet, l'adaptation, c'est l'art de l'anticipation, finalement, ou pas?
Alors, on peut avoir...
L'art difficile, hein, l'anticipation.
Oui, alors, idéalement, on anticipe. En pratique, comme le disait Magali Reguet-Zazid, souvent, en fait, on réagit. C'est-à-dire qu'après une catastrophe, on prend des mesures pour faire face à des catastrophes similaires. Mais l'idéal, effectivement, ce serait d'anticiper. Et c'est vrai que pour l'élévation du niveau de la mer, par exemple, c'est un sujet sur lequel l'anticipation, elle est vraiment clé. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'on va devant des centaines d'années d'élévation du niveau de la mer, en fait. On sait qu'on va dépasser des mètres d'élévation du niveau de la mer, sans doute bien après 2100, mais ils seront là. Et une fois qu'on aura dépassé ces mètres d'élévation du niveau de la mer, qu'est-ce qu'on pourra faire? D'une part, se protéger. Donc les Pays-Bas, par exemple, savent qu'ils peuvent se protéger jusqu'à 3 mètres d'élévation du niveau de la mer,
ouais.
Ou alors reculer Et ce sera le cas notamment dans les endroits où on n'aura pas suffisamment de ressources financières humaines pour protéger.
Ouais, mais c'est un pari de fou quand même, parce que comment des sociétés peuvent imaginer les choses à l'échelle d'un siècle, par exemple? Un siècle, c'est énormissime quand même.
Absolument. Alors à ce stade, en fait, je dirais, ça ne coûte pas cher, parce qu'en fait, il s'agit de faire des études pour savoir que ferait-on, que fera-t-on lorsqu'on aura dépassé 50 cm, 1 mètre, 2 mètres, etc. Mais lorsque viendra le moment, en fait, de s'adapter vraiment à ces élévations au niveau de la mer, ben là, il y aura besoin de moyens très très importants en matériaux, en finances, etc.
Sauf que là, on parle à long terme, mais on va voir qu'il y a déjà des adaptations qui sont largement nécessaires aujourd'hui.
Absolument.
On pourra évoquer, par exemple, le département du Pas-de-Calais, du Nord-Pas-de-Calais, qui est confronté à une question très concrète. Est-ce que certains villages, ou certaines villes, en tout cas, doivent être désertés dès maintenant? En tout cas, est-ce qu'on engage les gens à quitter les lieux?
Alors, c'est la question de la relocalisation. Et ce que dit Gonéry, c'est que l'adaptation, c'est aussi un choix. Et c'est pour ça que votre émission, elle est importante. Parce que votre émission, elle fait la différence et elle laisse aux scientifiques le temps pour parler. Et je suis une grande bavarde habituée de votre émission. Elle laisse aux scientifiques le temps d'exposer les faits et les diagnostics. On a aujourd'hui les diagnostics qui sont posés et on est capable, effectivement, en fonction du niveau de réchauffement, d'imaginer ce qui peut se passer dans le Pas-de-Calais. Mais ça ne suffit pas. Parce que derrière, ensuite, il faut regarder pas de temps par pas de temps et niveau de réchauffement par réchauffement,
c'est ça,
jusqu'où on est prêt à aller et à payer, y compris en termes de victimes humaines. Parce que, malheureusement, la plus belle digue, elle peut céder. Donc, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en termes d'investissement argent, mais aussi d'impact économique, énergétique, pour se dire, ce territoire-là, on le garde, et ce territoire-là, on le laisse. Et là, c'est politique, c'est-à-dire que ce sont des choix qui, dans une démocratie, doivent faire l'objet de débats entre des citoyens éclairés sur les diagnostics.
Absolument.
Et les solutions.
On en reparlera d'ailleurs, parce qu'on voit que ce n'est pas si simple, même quand on sait, à la limite, sa ville condamnée, de quitter les lieux. Hein, que ça pose
terrible.
Tout un tas de problèmes, évidemment, pour les populations. Gonéry Le Cozanet, en fait, ça veut dire qu'il faut être capable de bâtir des scénarios à différentes échéances, en fonction aussi de différents degrés de température de réchauffement de l'atmosphère. Donc ça, c'est des systèmes hyper complexes à modéliser aujourd'hui quand même. Hein.
Alors, effectivement, mais on peut constater quand même que c'est ce que font par exemple les Anglais et puis les Hollandais depuis un certain temps. Et donc, ils ont des scénarios de changement climatique. Alors, eux, ce qu'ils regardent, c'est plusieurs scénarios, y compris le pire des cas. Un cas dans lequel, finalement, le climat se réchaufferait énormément, on aurait une élévation du niveau de la mer très rapide, et il faudrait maintenir en sécurité des infrastructures critiques. La qualité de vie, évidemment, serait très fortement dégradée, mais on protégerait les infrastructures critiques. En France, on a fait un choix différent, alors c'est en cours avec le troisième plan national d'adaptation, qui est de sélectionner un seul scénario, donc 3 degrés de réchauffement global, c'est-à-dire 4 degrés France, c'est un scénario médian, c'est les engagements des États. Ce scénario, finalement, il a un avantage, c'est la clarté, c'est-à-dire que tous les acteurs savent qu'il y a un seul scénario auquel se référer. Voilà. Il ne faut pas oublier que pour certains acteurs, c'est probablement pas suffisant. Il faudra aussi regarder des cas encore plus défavorables pour anticiper correctement.
Alors, juste rapidement, un scénario à 4 degrés, ça veut dire quoi, Magali Riguezza? Si on peut avoir une idée un peu, parce qu'on est sur un degré 5, 2 degrés qui vont être largement dépassés probablement, mais un scénario à 4 degrés, ça veut dire quoi?
C'est monstrueux. Alors, moi, je ne vais pas me projeter en 2100, je vais juste vous parler d'un scénario tel qu'on va l'avoir aujourd'hui dans la trajectoire actuelle de réchauffement d'ici 2035-2040.
Donc demain matin.
Demain matin. Ce scénario, il a été étudié par le Haut Conseil pour le Climat et Météo France. Concrètement, ça veut dire que certaines villes de France vont avoir plus d'un mois de canicule par an. Vous habitez à Strasbourg, vous habitez à Grenoble, vous habitez à Lyon, on est à plus de 30 jours de canicule par an. Paris, c'est 27 jours. Aujourd'hui, on est à peine à 5-7. Ça veut dire donc des canicules plus longues, plus intenses, plus fréquentes, plus précoces. La question n'est plus de savoir si on va avoir du 50 degrés en France, mais quand. Ça veut dire aussi des sécheresses plus violentes, plus précoces, moins de précipitations. Au contraire, quand on a de l'eau qui tombe du ciel, beaucoup de pluie, très concentrée avec du ruissellement urbain.
C'est ce qu'on a vu ces derniers temps, d'ailleurs.
Donc, d'un côté, des sécheresses qui ont des impacts énormes sur l'agriculture, sur les forêts. Et puis, de l'autre côté, des villes qui deviennent difficilement habitables parce qu'il y fait très chaud. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de rénovation pour l'hiver. Il va falloir aussi avoir du confort d'été. Dans notre vie quotidienne...
Sans mettre des clims partout aussi.
Hein. Mais en mettant là où on en a besoin. Ça veut dire qu'on va manger différemment. Ça veut dire que nos paysages vont être différents. Ça veut dire qu'il y a de nouvelles maladies qui arrivent sur le territoire.
Ça, c'est 2035 ?
Alors ça, c'est maintenant. Les nouvelles maladies, la dengue, par exemple, on a, je crois, cette année, 1600 cas de dengue autochtone, c'est-à-dire que le moustique, qui normalement vit dans les tropiques, il est né en métropole, eh bien, ces cas de dengue, ces cas de chikungunya arrivent en France. Ça veut dire, par exemple, que vous avez des impacts terribles sur la santé mentale. Ça veut dire que vous avez des impacts sur le travail, donc sur les revenus. Donc, dès aujourd'hui, et a fortiori en 2035, votre bulletin de paye, votre budget, votre maison, votre véhicule, tout ça est en train d'être impacté, comme on dit en anglais, touché, concerné par le changement climatique.
Ça va être comme ça jusqu'à 15h, les bonnes nouvelles, ou on peut espérer avoir...
Alors, on en a plein, il faudra nous poser des questions.
Une lueur d'espoir, mais quand même. Bon, on en parle tout à l'heure, hein, ce sera... Oui. Gonéry de Cazalet, vous vouliez ajouter?
Oui, non, mais ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a des réponses qui sont sur la table, qui sont connues en fait, et qui permettent finalement de stabiliser le réchauffement climatique le plus bas possible et d'améliorer les conditions de vie. Ces solutions, le problème, c'est qu'on ne les regarde pas en face en fait.
Eh bien, on va les regarder en face avec vous dans un instant, ce sera la deuxième partie de cette émission.
1, 2, 3, 4.
Nouvel extrait de son dernier album, c'était Beyond, c'est sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Près de 1300 habitations sinistrées à deux reprises en moins de trois mois. Face aux risques répétés d'inondations, certains quartiers du Pas-de-Calais vont-ils devoir être rasés ? Le gouvernement réfléchit ici à rendre certaines zones inhabitables en détruisant toutes les maisons. Il y a quelques semaines, à Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes-Maritimes, 5 maisons touchées par des inondations ont été rachetées par la mairie et détruites. En 2010, après le passage de la tempête Xynthia, 1393 foyers avaient été contraints de déménager.
France Info, le 5 janvier dernier. L'adaptation au changement climatique, dossier de l'émission avec la géographe Magali Reguedzazit et le chercheur du BRGM du GIEC également, Gonéry de Cozanet. Comment, Magali Reguedzazit, on réfléchit concrètement à des situations comme dans le Nord-Pas-de-Calais, encore une fois, où les crues remettent en question l'habitabilité même de certaines communes, hein.
Alors malheureusement,
comment on accompagne les gens là-dessus?
Malheureusement, le territoire a déjà subi plusieurs catastrophes. Hein, votre reportage l'a dit, Xynthia, la tempête Alex. Dans beaucoup de cas, effectivement, il peut y avoir des réactions immédiates de dire on gèle les terrains. Quand on déplace des populations, c'est absolument insupportable psychologiquement. Elles perdent tout. Donc il y a déjà des fonds qui sont mobilisés. On voit par exemple que dans le Pas-de-Calais aujourd'hui, il y a des fonds de soutien qui sont ouverts par les communes pour ensuite racheter les terrains des personnes pour leur permettre de déménager. Il y a tout un accompagnement à avoir. Il y a aussi des réflexions entre les personnes qui veulent absolument rester et celles qui ne veulent plus parce que c'est trop difficile de rester, parce qu'elles ont perdu des proches, parce qu'elles ont eu très très peur. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que finalement on est sur des territoires qui sont entre guillemets peu peuplés, ou en tout cas où on n'a pas d'infrastructure majeure. C'est pas la même chose si vous avez des villages ou des et puis quand vous avez des grandes villes. Et donc toute la difficulté qu'on va avoir aujourd'hui, c'est que on a d'abord des territoires qui ne sont plus assurés, notamment sur la remontée du niveau marin. Donc ça aussi, ça va avoir des impacts. Il y a une grosse réflexion sur l'assurance et le système CADNAT vient d'être réformé en France. On a aussi des réflexions aujourd'hui de planification sur le repli, pour se dire quand est-ce qu'on va bouger et qui on va bouger. Et puis on a aujourd'hui aussi des réflexions pour pas être dans finalement la réaction justement. C'est-à-dire que le premier arrivé, le premier servi, donc je veux partir, on me rachète ma maison, sauf qu'il y a des milliers de logements qui sont dans ce cas-là. Et donc, on est en train de commencer vraiment à prendre à bras-le-corps cette question.
Gonéril Cozanet, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, le 4 janvier dernier, disait sur BFM que la création de zones inhabitables dans les secteurs les plus touchés par les crues n'était plus tabou aujourd'hui. Vous qui êtes spécialiste justement des zones côtières, comment ça se passe concrètement? Alors, est-ce qu'il y a déjà des zones qui sont classées inhabitables en France?
Alors aujourd'hui, vous avez des plans de prévention des risques qui effectivement nous disent des endroits qui sont où il est interdit de construire, en fait, tout simplement parce qu'ils sont menacés par des submersions marines et encore plus avec l'élévation du niveau de la mer. Vous avez également en fait des secteurs où l'érosion du trait de côte en fait a conduit à détruire des logements, comme par exemple à Soulac, le fameux immeuble du Signal. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ces relocalisations, en fait, elles sont extrêmement difficiles sur le plan social à accepter. Elles sont très efficaces parce que vous enlevez les enjeux, vous avez plus de risques en fait, mais elles sont très difficiles
à accepter. Mais là, c'est une zone inhabitable, par exemple? Ça a été classé ou pas, concrètement?
Alors, non, concrètement, il n'y a pas de statut de zone inhabitable, en fait.
Alors que personne n'aurait l'idée de reconstruire un immeuble à cet endroit.
Ah bah, c'est-à-dire que, de toute façon, là,
c'est impossible.
Ça sera en mer. Donc,
Non, mais même derrière.
Oui, tout à fait. Voilà, je pense que le problème, en fait, qu'il y a derrière, c'est vraiment la question du choix dont on parlait au tout début. Et en fait, le choix, c'est au niveau de l'aménagement du territoire, c'est aussi au niveau des réponses que l'on met en œuvre pour s'adapter. En fait, est-ce qu'on reste dans de l'incrémental? Est-ce qu'on augmente le stockage d'eau? Ou est-ce qu'on va vers les solutions que le GIEC estime être les réponses au changement climatique, qui sont l'agroécologie, l'agroforesterie, des solutions pour l'eau qui sont fondées un peu sur le stockage, mais aussi sur la demande, et tout ce genre de choses.
Il y a combien de millions d'habitants en France qui sont confrontés, ou exposés en tout cas, au risque d'inondation, par exemple, vous savez, ou pas? Parce que le ministère de l'écologie donnait un chiffre en 2015, c'était 17 millions d'habitants, a priori, sur le territoire. C'est énorme, quand même, hein?
Oui, alors effectivement, c'est énorme, mais d'ailleurs, quand vous regardez les inquiétudes qu'il y a, dont on parlait tout à l'heure sur le système CatNat, en fait, donc le système des catastrophes, d'indemnisation des catastrophes naturelles, les inondations, c'est un des très gros sujets, en fait. Il y a une dérive des coûts, qui aujourd'hui, on voit surtout le dérive des coûts qui est lié au retrait gonflement des argiles pendant les périodes de sécheresse. Ouais. Mais très rapidement, on va s'apercevoir également que l'intensification des pluies intenses et l'élévation du niveau de la mer, elle va nous causer des coûts très importants sur le système assurantiel.
1,4 million de Français habitent dans une zone à risque de submersion marine, hein, pour être tout à fait exact.
Sur franceinter.fr, Florent nous écrit: comment adapter et sauver la forêt déjà touchée par le changement climatique et menacée de disparaître? Magali Reguezazit, il y a eu des adaptations dans le sud, même s'il y a eu des énormes feux, mais comment ça se passe par exemple dans les forêts du nord?
Alors on a des très gros problèmes avec les forêts, d'autant que ces forêts sont des puits de carbone naturels qui sont vraiment nos meilleurs alliés pour capter le carbone et atteindre la neutralité. Aujourd'hui, les forêts, elles sont effectivement menacées par les incendies. Elles sont également menacées par des espèces invasives, notamment les scolytes, et elles sont menacées par les sécheresses. Et la grosse difficulté, en fait, c'est qu'on voit que le changement climatique est déjà là et qu'on a une substitution d'essence. Certaines essences vont disparaître et d'autres vont être là. La forêt française, c'est pas uniquement des forêts domaniales de l'État, ni même des forêts publiques. Il y a beaucoup de forêts privées. Donc, il y a aujourd'hui à la fois des recherches pour avoir des espèces plus résistantes. Il y a aussi des travaux pour maintenir les vieux arbres. On a absolument besoin de maintenir des vieux arbres. Donc en fait, vous avez des tas de travaux sur la manière de planter, de cultiver, de préserver. Et puis vous avez aussi aujourd'hui des réflexions sur planter des arbres, avec malheureusement le fait que, à cause du changement climatique, une partie de ces arbres meurt très très rapidement. Et donc aujourd'hui, c'est un peu une course contre la montre pour protéger nos forêts.
Et puis on sait qu'un jeune arbre n'a pas du tout la même capacité qu'un arbre ancestral, par exemple.
Exactement.
Hein, sa capacité de stockage du carbone.
Et par rapport aux populations qui sont dans ces forêts, parce que quand je disais il y a eu des grands feux dans le sud, mais il n'y avait pas eu heureusement de victimes humaines, est-ce que c'est la même chose dans la partie nord, si on prend la forêt de Fontainebleau par exemple?
Alors, il faut savoir que dans le sud de la France, grâce aux mesures de prévention qu'on a prises depuis 20 ans, Il n'y a pas eu plus d'incendies alors que les conditions y étaient beaucoup plus favorables. Donc ça veut dire que quand on fait de la prévention, des études, c'est un travail colossal, ça fonctionne. Le problème dans le Nord, c'est qu'effectivement, on a construit, parce qu'il n'y avait pas de risque à l'époque, et donc il va falloir mettre les plans de prévention dont on parlait, c'est-à-dire pas construire forcément aux endroits où on construisait, de renforcer les moyens de lutte contre les incendies, 3, adopter des comportements de prévention, bien nettoyer autour des maisons, sécuriser les points d'eau. Donc si vous voulez, c'est des tas de mesures. Et ce qu'on a fait pendant 20-25 ans dans le sud de la France, avec malheureusement beaucoup d'incendies et donc beaucoup d'adaptations réactives, il faut qu'on le fasse de façon très très rapide dans le nord de la France. Donc oui, on a un sujet, et il y a un sujet dont on ne parle pas, c'est sur les feux agricoles. Parce qu'aujourd'hui, dans le Nord, ce qui pose aussi beaucoup de problèmes, ce sont les feux dans les champs. Et là aussi, les agriculteurs...
Donc les feux volontaires, là.
Alors, tous les feux sont... Enfin, 90% des feux sont d'origine humaine, sauf qu'évidemment, conditions... C'est... Voilà. Les feux agricoles, c'est simplement que vous avez aussi, à cause des sécheresses, des champs qui s'enflamment.
Ah oui.
Alors même que ces champs sont d'excellents coupe-feu quand vous avez des incendies sur des forêts. Donc, à nouveau, les agriculteurs sont les premières victimes, mais aussi les premières solutions, parce que là aussi, les cultures peuvent être des aides très précieuses pour les pompiers et pour les systèmes de secours.
Gonéril Cozanet, il faut remettre complètement en question la gestion du littoral aujourd'hui face à la menace, justement, de la montée du niveau de la mer.
Ce qu'on peut dire, c'est que déjà, il y a une prise de conscience au niveau de l'État qui est assez ancienne, hein, la stratégie nationale intégrée de la gestion du trait de côte, c'est la reconnaissance que on ne pourra pas répondre partout avec de la protection. Voilà. Donc ça, c'est plutôt positif, parce qu'un des grands risques de l'élévation du niveau de la mer, c'est que finalement, elle se fasse au prix de la perte de beaucoup d'écosystèmes côtiers, en construisant des digues partout qui ne laisseront plus d'espace en fait, pour les marais, les plages, les dunes, etc.
Donc c'est complètement catastrophique en réalité. C'est-à-dire que d'un côté, on a une solution de géo-ingénierie quasiment, et puis de l'autre, on a des impacts sur la biodiversité.
Voilà, c'est là que le choix politique il apparaît à nouveau. En fait. Est-ce qu'on fait finalement de la recomposition territoriale, ou est-ce qu'on fait de la protection pour se protéger du niveau de la mer? Et en fait, on peut retourner le problème et se dire que... du fait de l'élévation du niveau de la mer, des changements sont inévitables. Prenons partie de ce changement inévitable pour essayer de restaurer une qualité des milieux qui soit meilleure, notamment dans les estuaires, sur les côtes, etc. Ça s'applique probablement dans tous les milieux. Voilà, il y a des acteurs qui commencent à faire ce genre de choses, à expérimenter. Par exemple, le Conservatoire du Littoral en France, il a de nombreux sites en fait, sur lesquels il expérimente. C'est ce qu'on appelle ces solutions fondées sur la nature, qui ne reposent pas exclusivement sur la protection, sur laquelle on reconstitue des écosystèmes côtiers. Et ça permet de voir en fait, qu'on a... au moins, tant que le niveau de la mer ne s'élève pas trop vite, des choses qui sont très intéressantes, y compris pour le tourisme d'ailleurs.
Allez, on se retrouve dans un instant pour ce dossier adaptation sur France Inter.
France Inter, la Terre au carré.
14h32, on passe au vert, Camille Cronier.
Et il est parfois nécessaire et même inévitable de lutter contre la chaleur. Nos petits corps sont mis à rude épreuve quand le thermomètre s'affole. Et à ceux qui seraient passés à côté, je vous signale qu'une partie de l'Asie souffre en ce moment même d'une vague de chaleur inédite. Les Philippines, la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge, le Bangladesh, la Birmanie, l'Inde. Il y a plus de 45 degrés par endroit. Une habitante disait dans les journaux, il fait chaud à en mourir. Et c'est vrai. Savez-vous, par exemple, que si vous êtes exposé à une température de 35 degrés dans une zone très humide, 100% d'humidité, pendant 6 heures, vous y passez. C'est ce qu'on appelle la température humide, le wet bulb en anglais, dont on retrouve les origines dans l'US Navy en 1956 précisément, comme me l'a expliqué la physicienne de l'atmosphère au CNRS, Sarah Safiedine.
Le terme wet bulb temperature a commencé vraiment à être utilisé par l'armée aux États-Unis suite à plusieurs décès, à plusieurs maladies qui ont touché l'armée navale américaine, dont la côte est, proche de l'équateur. C'est là où on trouve les premiers essais d'utiliser la température humide comme un indice de confort thermique qui peut prédire des coups de chaleur en activité en extérieur.
Un indice de confort thermique, hein, vous avez entendu, qui va donc déterminer à partir de quel moment le corps humain agonise. Il s'ajoute à une longue liste d'indicateurs pour mesurer une vague de chaleur, mais lui donc permet d'anticiper les effets en mesurant à la fois la température de l'air ambiant et le taux d'humidité, parce que vous serez nombreux à avoir noté qu'on supporte quand même mieux la chaleur quand il fait très sec que quand l'air est moite. Donc pourquoi ? Tout simplement parce que quand l'air est sec, on peut transpirer et donc on peut refroidir notre température interne, puisqu'on évacue la chaleur, alors que quand il fait humide, eh ben, ça ventile pas. Donc on peut tomber en hyperthermie, c'est-à-dire que la température de notre corps dépasse la normale, comme quand on a de la fièvre. Et la barre des 35 degrés 100% d'humidité 6 heures, ou variante 38 degrés 80% d'humidité, ou encore 41 degrés 60% d'humidité, 6 heures toujours, elle pourrait non seulement en fait être plus basse, certaines études commencent à parler d'un danger mortel à 31 degrés et 60% d'humidité, mais surtout, elle est plus fréquente. Ces événements de température humide extrême ont été multipliés par 2 depuis 40 ans, et ça ne va évidemment pas aller en s'arrangeant avec le réchauffement climatique. Cathy Clairbeau est elle aussi physicienne de l'atmosphère au CNRS.
Comme la température augmente, il y a des zones du globe qui vont être de plus en plus chaudes, et quand la température augmente, la vapeur d'eau, il y a plus d'évaporation aussi. Et il y a des endroits qui combinent à la fois une température élevée et une concentration en vapeur d'eau qui est assez élevée, donc l'air est humide. Et donc on pense que par exemple, vers 2050, si on fait des projections de la température dans certaines régions du globe, comme l'Asie du Sud, le Golfe Persique, tout ce qui est autour de la mer Rouge, il va y avoir plusieurs jours par an où justement ces températures vont être difficiles à supporter parce qu'elles combineront à la fois température élevée et niveau d'humidité élevé aussi.
Voilà, des zones à risque clairement identifiées avec un critère un peu contre-intuitif, c'est qu'il pourrait être plus difficile à vivre en bord de mer, où il y a plus de vapeur d'eau et donc plus d'humidité, que dans les terres. Les chercheuses citent par exemple l'Arabie Saoudite. Sarah Safieddine prévient également que ce n'est que le début.
Aujourd'hui, on est dans un phénomène où il y a de temps en temps des extrêmes, mais ces extrêmes, ce sera la norme dans le futur, et dans cette norme du futur, il y aura aussi des extrêmes. Donc, on ne sait pas vraiment encore, parce que chaque année, il y a une canicule, elle est encore plus extrême que des années avant, donc on ne sait pas ce qu'on peut attendre pour le futur, dans le sens où il y aura peut-être des événements vraiment très extrêmes de chaleur, ça pourrait avoir un effet catastrophique.
Voilà, des régions inhabitables, et même si l'Europe, par exemple, est moins concernée, puisque le climat est tempéré et non tropical, elle est aussi surveillée, l'enjeu est d'anticiper partout.
La finalité, c'est de regarder comment le corps humain supporte les variations de différents paramètres, avec l'idée que si la température autour du globe augmente, eh bien, comment les personnes qui vivent dans des pays qui combinent à la fois chaleur et humidité, par exemple, comment les corps vont pouvoir supporter ça?
Et là, c'est un travail à mener aussi avec, bien sûr, la médecine. Les recherches, en fait, sont encore assez nouvelles, mais l'enjeu est grand, avec, comme toujours, dans ce monde qui change, la nécessité de s'adapter et donc de penser aussi les choses politiquement, à une échelle locale, nationale, globale, parce que c'est pas le thermomètre qui cassera, mais bien nos corps. Donc, en attendant, ils n'arrêteront pas de lutter, ces corps, pour simplement pouvoir continuer à vivre.
Merci beaucoup Camille Crenier, c'est à réécouter bien sûr sur la page de La Terre au Carré.
Magali Reguedzazit, c'est des enjeux aussi auxquels on pense peut-être moins, mais qui voilà, quand on dit réchauffement climatique, il y a aussi la vapeur d'eau, comme l'expliquait Cathy Clairbeau.
Oui, il y a une intensification de ce cycle de l'eau qui a des conséquences sur les sécheresses, sur les précipitations, sur les corps. Et ces questions de santé, elles sont vraiment fondamentales. On parle effectivement de zones tropicales. Alors déjà, une partie de nos concitoyens y vivent, donc ça peut être très compliqué. Ce sont en plus des îles qui sont menacées pour beaucoup par le niveau de la mer qui monte. Mais on a aussi un problème. Par exemple, cet été, on sait qu'on a une surmortalité qui est liée aux canicules de plus en plus précoces et de plus en plus fréquentes. Qu'est-ce que ça serait notre vie quotidienne dans des villes ou des territoires très chauds? Ça veut dire qu'on ne peut plus aller à l'école, ça veut dire qu'on ne peut plus aller travailler, ça veut dire qu'on ne peut plus travailler en extérieur, ça veut dire que prendre sa voiture, ça devient compliqué, c'est plus de sport. Donc en fait, c'est tout notre quotidien qui est perturbé. Juste pour vous donner une image, vous vous souvenez tous de l'été 2022. L'été 2022 en 2050, selon les trajectoires actuelles, c'est un été normal. À la fin du siècle, dans cette fameuse France à 4 degrés, c'est un été froid. Donc il faut bien imaginer que ce qu'on a jugé insupportable, cette chaleur, ces nuits où on ne dormait pas parce qu'il faisait trop chaud, ça devient...
Un été froid, est-ce que j'entends des gens dire, elle exagère quand même, non, ça sera froid,
c'est pas moi qui le dis,
à l'ombre, ça sera froid.
Alors, c'est
parce
pas, attention,
froid,
un été ce sont des moyennes, c'est-à-dire que les températures, ces records de température, le profil d'été qu'on a vécu en 2023, en fait, on va avoir des choses bien pires, en termes d'extrême, mais aussi en termes de température moyenne.
Oui, mais entre dire ça va être un été froid et...
Eh bien, en gros, ce que nous disent les scientifiques aujourd'hui, c'est que les écarts de température par rapport à ce qu'on a connu, quand on est à 4 degrés sur l'année, ça peut monter sur des extrêmes à 8-9 degrés de température moyenne.
Gonéril Cozanet.
Oui, effectivement. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que ce sujet-là des canicules, et notamment en ville, parce qu'en ville, les effets des canicules sont amplifiés, c'est vraiment un sujet majeur d'adaptation. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, dans les villes, il y a des programmes de végétalisation climatisation pour atténuer cet îlot de chaleur urbain. Également, en fait, des mesures, par exemple, pour changer des matériaux, pour avoir des surfaces blanches pour réfléchir la chaleur. Mmh. Et puis, en fait, il y a même un sujet qui se retrouve dans l'adaptation, qui est favoriser la marche et le vélo. Parce que des gens en meilleure santé, en fait, sont moins sensibles à ces vagues de chaleur.
Ah bah c'est ce que nous dit Valérie Pécresse pour les Jeux Olympiques. Oui. c'est favoriser la marche.
Et par rapport à la température humide, pour y revenir, là, sur la vapeur d'eau, oui. Est-ce qu'on peut imaginer quand même que, par exemple, sur les côtes françaises métropolitaines, ça puisse arriver à terme ou pas ?
Alors, en fait, là, je dirais, c'est quand même un sujet, les températures létales, hein, donc, qui posent un risque pour la vie humaine. Quand on regarde les cartes, c'est
les conditions létales. Les conditions, humidité plus température.
Ouais. Humidité plus température, c'est température et humidité, effectivement. C'est quand même beaucoup dans la zone tropicale et dans les villes qui auraient échoué à suffisamment atténuer leur îlot de chaleur.
On voit ce que vit l'Asie du Sud-Est en ce moment.
Absolument,
comme ce que le Brésil a vécu il n'y a pas si longtemps. Mmh. On voit des images qui sont hallucinantes quand même.
Exactement.
Les populations sont confrontées quand même à des choses qu'elles n'ont jamais connues auparavant. Hein.
Absolument.
Et ça se multiplie très vite.
Et le problème, c'est que ça continuera à s'aggraver tant qu'on n'aura pas stabilisé le réchauffement climatique.
Bon, eh ben on vous promet quand même qu'on va essayer de vous donner des bonnes nouvelles. Avant 15h, il nous reste 20 minutes, je pense qu'on va y arriver.
Hey, à mon avis, si c'est corsé, c'est qu'on se rapproche de la vision. À mon avis, si c'est forcé, c'est que ton amour, c'est de la fiction. À mon avis, hey, on tient la pépite sur le prochain expo. À mon avis, hey, mes rêves vont bientôt traîner avec un ex pauvre. À mon avis, si c'est corsé, c'est qu'on se rapproche de la vision. C'est fort, c'est que ton amour, c'est de la fiction. À mon avis, nouvelle pépite, nouvelle expa. Tous mes rêves vont traîner en ville avec un expa. Tranquille, hey. On fait pas un nouveau deal avec une big teuf. Je connais des refs qui comptent encore en grec. Je connais des meufs qui comptent en week 9. Qu'il pleuve si les têtes noches up sans modestie font que parler mais ce qu'ils peuvent. Y'a beaucoup de docteurs mais beaucoup non up. Tout ce que l'on prescrit, on lance des pogos de steel punk. Ils le font pour le pif, ne pour que ça découpe. J'écoute des artistes sous côté, le reste me dégoûte, hey. J'ai compris, on est ce qu'on mange. Peut-être qu'on est devenu ce qu'on écoute. Je fouette les vampires comme Belmont. À mon enterrement, y'aura des vautours tristes avec de belles montres. Si tu n'oublies aucun visage, c'est que tu ne connais pas assez de monde. À mon avis, si c'est corsé, c'est qu'on se rapproche de la vision. À mon avis, si c'est forcé, c'est que ton amour, c'est de l'affection. À mon avis, nouvelle pépite, nouvelle expa. Tous mes rêves vont traîner en ville avec un expa. J'ai le rap qui fait checker avec la collade. Rarement danser comme Chacola. La crise en fit et je me rappelle qu'on a déjà collab. Fuck frère, ils vont m'aduler. Quand ils pigeront qu'il faut faire un classement des mecs qui restent dans la durée. Dingue, dingue comme tu joues avec le feu. Rappelle-moi seulement si tu veux te brûler. Les ailes,
les ailes.
Elle m'a dit qu'il ne se passerait que dalle. Seulement je suis chez elle,
chez elle.
J'y suis. On devrait simplement ken. On se correspond à mon avis. T'as les cheveux noirs comme ma vie. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu le soleil. Je me sens tous les jours comme si le rap m'avait volé 10 ans sommeil. J'aime pas faire ma propre promo, mais bon, j'ai pas vraiment le choix. Je m'aligne. Je vous aurais bien dit de surveiller le ciel, mais c'est pas de là que j'arrive. Non, crois-moi, c'est pas de là que j'arrive. Hey, hey. À mon avis, si ce corps c'est qu'on se rapproche de la vision. À mon avis, si ce corps c'est que ton amour c'est de la fiction. Nouvelle expa. Tous mes rêves vont traîner en ville avec un expa.
Nouvel export, Jewel Hussein sur France Inter et Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
On est dans l'écosystème de mangrove du delta du Siné-Saloum et c'est un écosystème précieux, hein, et heureusement cet écosystème aujourd'hui se porte très bien. Vraiment, il joue son rôle de nurserie pour les poissons, les palétuviers se régénèrent par eux-mêmes. Dans le passé, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont planté et qui ont accompagné les reboisements. Nebedaï en fait partie. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus que la plantation en tant que telle, c'est de transmettre l'amour de l'écosystème, du palétuvier, de l'arbre, de la mangrove aux enfants. Donc la plupart de nos reboisements sont faits avec les générations futures, avec des enfants, et révèlent un caractère pédagogique.
Voilà, document Arte, Sénégal, arbre de vie en 2022, avec Jean Gueup qu'on entendait de l'association Nebedaï à l'instant. L'adaptation donc au changement climatique avec nos invités, la géographe Magali Reguedzazit et le chercheur du BRGM et auteur du GIEC Gonéry, le Causanet. Un exemple donc avec la mangrove là à l'instant.
Absolument, ça concrétise, quand on parle de solutions fondées sur la nature, ça paraît abstrait, ben là on voit là une très concrète.
L'adaptation, l'humanité s'est toujours adaptée, enfin, quand même, Magali Reguedzazit.
Alors ça, c'est un argument qu'on entend beaucoup. La première chose, c'est que oui, l'humanité s'est toujours adaptée. Il faut juste dire que ça a coûté des millions et des millions de morts. Ça ne s'est pas fait comme ça. Et que surtout, l'humanité n'a jamais eu à connaître le changement que nous sommes en train de vivre. Il y a aujourd'hui autant de CO2 dans l'atmosphère qu'il y a 2 millions d'années. On va prendre à 150 ans ce qu'il a fallu plus de 100 milliards d'années en termes de réchauffement de la planète pour prendre. Donc ça veut dire que ça va très très vite et que ça va continuer à aller vite.
Vous dites qu'il y a autant de CO2 dans l'atmosphère qu'il y a 2 millions d'années ?
Oui, on
2 millions d'années, il y avait déjà Homo habilis à l'époque.
Oui, alors effectivement, mais si vous regardez l'histoire de l'humanité, vous savez sans doute que en gros, on vit depuis à peu près 10 000 ans, depuis ce qu'on appelle le réchauffement holocène, dans une période de relative stabilité climatique. Le climat a changé, mais jamais dans ces fourchettes qu'on connaît aujourd'hui et jamais au niveau global. Et en particulier, ce changement climatique, et Gonéry l'a dit aussi, il a un impact très très fort sur les êtres vivants autres que l'humain, notamment sur les écosystèmes et les fonctions qui rendent. Quand je parle d'écosystèmes, je ne parle pas juste d'espèces. On parle beaucoup des ours polaires, des pandas. On doit surtout parler de ces fonctions que rendent les écosystèmes et dont nous sommes entièrement dépendants. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que malheureusement, les services écosystémiques s'affaiblissent alors qu'ils sont nos meilleurs alliés pour les littoraux, pour l'eau, par exemple pour assainir l'eau, pour aussi la bonne santé, la santé humaine, évidemment pour se nourrir, évidemment pour se chauffer. Ces services écosystémiques, ils sont menacés aujourd'hui par le réchauffement climatique. Le rapport du GIEC le dit très clairement. Le rapport du GIEC, c'est le consensus scientifique sur la base de la littérature scientifique qui a été validée par les 195 États. Il dit qu'il y a deux limites aujourd'hui dures à l'adaptation. Le niveau de réchauffement, c'est ce qu'a montré Camille tout à l'heure, au-delà d'un certain seuil, on a des effets létaux de plus en plus forts. Et puis, l'érosion de la biodiversité, qui n'est pas simplement liée au réchauffement, mais qui s'amplifie du fait du réchauffement et qui, à son tour, amplifie le réchauffement. Et donc, aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est de trouver des solutions qui permettent à la fois d'atténuer le changement climatique, c'est-à-dire vraiment de l'arrêter, de le stopper, de le limiter, tout en n'étant des solutions qui nous permettent de répondre et de maintenir notre niveau de vie, voire de l'améliorer.
Camille.
Oui, il y a des messages de Claude, par exemple, sur franceinter.fr qui demande si on va parler de technosolutions et Nathalie ajoute le problème en l'adaptation de l'espèce humaine, c'est que parfois ça aggrave le problème, voire l'exemple de la climatisation. Est-ce que, Gonéry Le Causanet, la technosolution, est-ce que les digues, par exemple, pourraient être considérées comme du technosolutionnisme ?
Oui, d'une certaine manière, mais je dirais, la question c'est, faire des digues pour protéger par exemple des zones habitées, bah oui, certainement, on en fait, on continuera à en faire. La question c'est, est-ce qu'on doit en faire partout ? Et là, effectivement, la réponse c'est probablement pas la meilleure solution. Et je dirais, toutes les technosolutions qu'on a sous les yeux, en fait, on pense par exemple au stockage de carbone, pour l'atténuation, hein, on en a besoin, mais pour réduire, pour compenser les émissions résiduelles, pas pour compenser 40 gigatonnes d'émissions annuelles, vous voyez. Donc je dirais, le problème du discours sur les technosolutions, c'est que oui, on en a besoin, mais de manière raisonnable, en fait. Toute la question derrière, c'est la question de la sobriété. C'est-à-dire,
c'est
en fait,
si à la base, il y a de l'atténuation quand même. On ne peut pas faire ça sans l'atténuation.
Oui, en fait, je dirais, il y a 20 ans, en fait, parler d'adaptation, on était presque suspect, finalement, de démissionner sur l'atténuation. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, en fait. Mmh. On voit bien qu'on a besoin des deux et qu'en fait, plus on atténue le réchauffement climatique, plus on se laisse d'opportunités pour l'adaptation, y compris, en fait, d'améliorer les conditions de vie.
Et alors, la maladaptation dont parlait le GIEC, par exemple, dans le rapport de 2022, c'est quoi exactement?
La maladaptation, en fait, c'est toute action qui, en fait, conduit, même si a priori on pense que c'est une bonne idée pour réduire les risques, au bout d'un moment, on se rend compte que ça les aggrave. Donc typiquement, de quoi est-ce qu'on parle? Si, par exemple, vous pensez stockage d'eau, en surface pour faire face en fait au changement climatique, aux sécheresses.
Méga bassine par exemple.
Une méga bassine en soi n'est pas une maladaptation, c'est probablement même une solution dans certains cas. 15 méga bassines, est-ce que vous allez pouvoir les remplir? Certainement pas. Quels seront les effets sur les écosystèmes? On n'en sait rien, probablement très grave. Donc c'est là en fait qu'on rentre dans l'adaptation, c'est dans cet excès en fait, vous voyez, le stockage d'eau, on en fait plein, mais à un moment, il y a des limites à ça.
Enfin, vous dites on n'en sait rien, on peut imaginer les effets que
absolument.
Ça a sur les
en
écosystèmes,
réalité,
sur les nappes phréatiques.
Voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, la question, c'est de savoir est-ce que ça a été évalué. Aujourd'hui, non. Voilà.
Dans la maladaptation, on pourrait citer, donc Nathalie parle de la climatisation, Magali Reguedzazit, est-ce que finalement, on avait fait d'ailleurs une émission sur la climatisation, on voit les chiffres, c'est exponentiel, on ne va pas du tout dans la bonne trajectoire pour ça non plus.
Alors il y a deux choses, effectivement la maladaptation, c'est d'un côté ce qui augmente les émissions, ou qui les verrouille et ce qui empêche les changements de pratique. Ce qu'on oublie, c'est que pour que l'adaptation de demain réussisse, il faut que l'atténuation d'aujourd'hui réussisse. Ça, c'est la première condition. Mais deuxième condition, c'est que si on réussit l'atténuation, on entre dans un monde neutre en carbone, où il y a moins d'eau, parce que le climat a changé, où il y a moins de sol, où il y a moins de minerais, etc. Donc il faut aussi s'adapter à ça. Je vous donne un exemple très concret sur la climatisation. Cet été, vous êtes allé, il y a eu des vagues de chaleur en Italie ou en Espagne. En Italie ou en Espagne, il y a beaucoup de climatisation. Ça s'est mis à coûter tellement cher en termes d'électricité, de payer la facture du climatiseur, que les gens n'ont pas pu l'utiliser. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la précarité énergétique qui nous empêchait dans un monde non réchauffé par l'homme de nous chauffer l'hiver, elle va nous empêcher l'été d'accéder au froid. Le froid va être la nouvelle ressource. Ça veut dire qu'il faut développer des réseaux de froid collectifs, ça veut dire qu'il faut développer de nouvelles façons d'habiter, de nouvelles façons de construire pour limiter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de clim. Il y a des endroits où on aura absolument besoin d'espaces froids, les hôpitaux, les endroits qui reçoivent du public. Mais si tout le monde se met à vouloir de la climatisation, on ne pourra tout simplement pas faire face aux besoins énergétiques et à tout ce qu'il y a derrière en termes de matériaux, d'achats et de factures.
Je vais vous inviter à mes réunions de copropriété.
J'allais dire un petit promis.
J'essaie de convaincre mes voisins de ne pas mettre de la clim.
Il est désespéré, le pauvre.
C'est pas très facile. Gonéril Cozanet.
Effectivement, dans la définition de maladaptation, il y a également toutes les actions qui contribuent à accroître les inégalités. Donc ça peut être l'inégalité d'accès à l'eau, et c'est effectivement un défaut qui compte ces stockages, systèmes de stockage d'eau, mégabassines, mais également, par exemple, ce dont parlait Magali à l'instant sur le froid.
Autre question, Gaëlle, qui demande si pour l'adaptation au changement climatique, les transports en commun ont un rôle à jouer. Est-ce que, par exemple, développer le train, y compris le fret, aux dépens de l'avion, pourrait être une solution?
Alors, c'est essentiel, et là aussi, ça dépend ce qu'on veut faire. Par exemple, on sait que pour atténuer, d'abord, il faut décarboner nos mobilités. Il va falloir aussi agir sur la demande de mobilité, c'est-à-dire bouger mieux, mais moins. On a absolument besoin d'avoir des transports pour l'adaptation, y compris en pensant nos réseaux de transport dans ce monde réchauffé. Un exemple très concret, vous voulez aller demain à l'hôpital, il faut absolument que vous ayez des transports fiables pour vous emmener à l'hôpital pendant les vagues de chaleur, ou pour accoucher, ou pour faire n'importe quoi. Pour accéder à l'éducation, pour accéder au tourisme. Ce que dit Gonéry, c'est qu'en fait, on va devoir adapter nos infrastructures aux impacts du changement climatique, mais aussi pour réduire la vulnérabilité de notre société et permettre, en cas de crise ou de moments difficiles, de pouvoir continuer à assurer les services qui font que, justement, on est plus fort parce qu'on a accès à l'école, parce qu'on a accès à la culture, parce qu'on a accès à l'emploi. Et on pourrait dire la même chose, on a parlé de l'eau, on a parlé du logement, il faut parler de l'éducation, de la santé. Et puis il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Les prisons, par exemple. Qu'est-ce qui se passe demain dans les prisons françaises dont on connaît l'état? Qu'est-ce qui se passe demain dans les crèches? Qu'est-ce qui se passe demain dans les espaces qui reçoivent du public? Qu'est-ce qui se passe demain à la maison de la radio? Et donc, dans tous les endroits où il y a des médias qui informent, où il faut absolument que ces médias soient résilients pour faire face à des vagues de chaleur, parce que j'imagine que vous n'habitez pas à la maison de la radio, et que si les transports sont interrompus, vous ne pourrez pas venir travailler, et vous ne pourrez pas assurer la continuité de l'information.
Gonéril Cozanet, sur la vulnérabilité, parce qu'en plus, c'est une question de justice sociale aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'inégalités face à la vulnérabilité.
Oui, effectivement, ce que voit le GIEC et tous les rapports sur le sujet, c'est que plus vous êtes pauvre, plus vous êtes isolé socialement ou économiquement, plus vous êtes vulnérable au changement climatique, en fait. Hein. Vous pensez à quelqu'un qui habiterait dans une zone très urbaine et qui n'aurait pas les moyens de s'isoler dans un secteur plutôt frais pendant les vagues de chaleur, et ben voilà, il est très vulnérable. Voilà, donc effectivement, ce sujet-là, donc la question, c'est comment on fait pour compenser ça. Et donc une politique d'adaptation, ça peut être effectivement de favoriser les personnes qui sont très vulnérables, enfin de leur donner finalement les moyens de s'adapter. En fait, tout
mais simplement. Est-ce que le problème, c'est pas que aussi bien dans une échelle nationale que dans une échelle globale, ceux qui tiennent les rênes, ce ne sont pas des gens dans des situations vulnérables et pauvres, et donc quelque part, ils s'en fichent parce qu'ils sont déconnectés de ça.
Oui, oui, alors là, en fait, vous rentrez dans les... Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'adapte pas? Parce qu'en fait, l'adaptation, quand on regarde, c'est plutôt que des bénéfices, en fait, pour la plupart des gens. Et en fait, la plupart des barrières à l'adaptation, elles ne sont pas techniques, elles sont sociales, en fait. C'est des choix, c'est des acteurs qui essaient de conserver, en fait, leur position
confortable.
Dans le confortable, en fait. Et donc, ces choix, évidemment, ce qu'il faut voir, c'est qu'à un moment, on arrive à des conflits également avec ça, en fait. C'est-à-dire que les conflits auxquels on pense avec le changement climatique, c'est moins des conflits armés que des conflits sociaux, en fait, dans lesquels on se bat sur les solutions. Est-ce qu'on va faire du stockage d'eau ou est-ce qu'on va faire de l'agroécologie?
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de ce dossier.
J'ai trouvé ça bon, mon amour, de passer la nuit du dernier jour à rouler des larmes de sel que tu n'es pas mis de dentelle. J'ai trouvé ça bon, mon amour, tu as dit je t'aimerai toujours en me laissant seul sur la digue, en me faisant le dernier signe. Le soleil va se lever et moi non plus. Les draps sont semi-froissés, noirs et demi-nus. Oh, 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 le temps va nous déporter dans une loi sans issue. Mais j'ai trouvé de la beauté là où il n'y en a plus. J'ai trouvé ça beau. C'est arrêté autour que la nuit d'hiver insolente ravit les passants et les passantes. J'ai trouvé ça beau, mon trésor, que tu aies sur moi le droit de mort. J'ai trouvé ça pur, mais qu'importe, je suis seul en voiture devant ta porte. Le soleil va se lever et moi non plus. Son semi-froissé, le roi est demi-nu. Le temps va nous déporter dans une loi sans issue. D'ici à l'éternité, je te verrai jamais plus. Je te verrai plus jamais nu. Sont mes seules compagnes et le froid m'accompagne. Ton silence et mon silence sont mes seuls soutiens quand je bats la campagne. J'ai trouvé ça beau, 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 mon amour.
De la beauté là où il n'y en a plus. Benjamin Biolay à l'instant sur France Inter, dossier adaptation avec nos invités Magali Reguedzazit et Gonéry Le Cozanec. On les a, les solutions pour bien s'adapter, Magali Reguedza, ou pas?
Oui, on les a, elles sont évaluées, elles existent, elles sont efficaces.
C'est où le bon bouquin à lire?
Le magnifique résumé aux décideurs, 25 pages du rapport du GIEC, deuxième volet. Il y a des dessins et on voit toutes les solutions. Mais oui, il y a des dessins et on voit même ce qu'on appelle les co-bénéfices, c'est-à-dire que non seulement toutes les solutions sont là, mais qu'en plus elles apportent vraiment des bénéfices en termes de santé, en termes de cohésion sociale, territoriale, en termes financiers, ça rapporte aussi de l'argent. Donc en fait, on ne comprend plus pourquoi à un moment, tout est là sur la table. On n'en discute juste pas. Mmh. On devrait tous être en train de discuter comme des citoyens.
Mais il y a Yvan, par exemple, qui nous écrit « En France, il y a la planification écologique ». Ça, ce n'est pas quand même des pas...
Alors c'est très important. C'est un gros pas en avant, mais sauf qu'une fois qu'on a planifié, il faut appliquer. C'est bien beau d'avoir un plan, Et la planification, pour l'instant, et c'est normal, elle a d'abord porté sur l'atténuation. Là, on va vers l'adaptation.
Gonéril Cozanet.
Oui, effectivement, je pense que sur l'adaptation, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est quand même qu'au début. Hein, parce que, par exemple, si vous prenez l'océan, la pêche, par exemple, la pêche est très vulnérable au réchauffement climatique. Et en fait, on sait, le rapport du GIEC nous dit que les aires marines protégées, c'est une solution d'adaptation. Encore faut-il qu'elles soient réellement protégées, en fait.
Comme en Grèce, par exemple.
Par exemple.
Qui vient de protéger les aires marines. Hein,
exactement. Et bon, la France, là-dessus, doit bouger. Elle n'a pas encore bougé, en fait.
CNRS vient de sortir un rapport ce matin en disant que seul un tiers des aires marines protégées sont efficaces. Voilà.
Voilà, c'était exactement. Ce matin. Et c'est un constat qu'on trouve également dans le rapport du GIEC. Mmh. Voilà. Bon, ben, moi, je pense que l'émission que vous faites, en fait, elle est très importante parce que d'habitude, on s'arrête au constat et puis on voit, en fait, les conséquences que les vagues de chaleur vont avoir pour les humains. Là, on peut parler des solutions. On peut les rappeler. Voilà, c'est végétaliser les villes, faire de la place pour la marche et le vélo. C'est l'agroécologie, l'agroforesterie, une pêche durable avec des aires marines protégées, avec des techniques sélectives.
Mmh. Voilà. Mais faut le penser à l'échelle mondiale. C'est ça la difficulté aussi.
En fait, je pense que l'adaptation, si vous la mettez en place à l'échelle locale, vous en tirez déjà des bénéfices. Alors que l'atténuation, au contraire, effectivement, c'est le cumul des actions qui va se révéler intéressant, en fait. Mmh. Encore faut-il qu'il y ait une politique de soutien claire pour les acteurs qui s'engagent vers l'adaptation.
Et l'un ne va pas sans l'autre, on le disait tout à l'heure. Atténuation et adaptation sont les deux mamelles du réchauffement climatique. Merci beaucoup à tous les deux, Magali Reguezazit et Gonéry Le Cozanet. Demain, on va essayer de voyager autrement. Le voyage décolonial dans la Terre au carré.
Bon après-midi.
Tout savoir sur les élections européennes avec le gouvernement. Thomas, bonjour. Vous avez interrogé un spécialiste de l'Union européenne. Alors pourquoi on vote concrètement en juin prochain?
Pour élire les 81 représentants français qui siégeront au Parlement européen ces 5 prochaines années.
Et à l'issue de ce scrutin à un seul tour?
Eh bien, chaque liste qui obtient plus de 5% des suffrages se voit attribuer un nombre de sièges proportionnel.
D'accord. Et on vote quand?
Le 9 juin. Et pour plus d'infos, rendez-vous sur elections.intérieur.gouv.fr.
Merci.
Ceci est un message du gouvernement.
Fabrice Rouel, bonjour.
Bonjour Mathieu Vidard.
En direct, Affaires Sensibles dans un instant.